Le 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ordre de marche. La répartition des secteurs a été validée ce matin par une majorité Rassemblement loyaliste Calédonie Ensemble et Éveil Océanien. Hommage et recueillement ce matin à la tribu de Bangou. Il y a 43 ans, le 21 janvier 1982, cet homme de l'aéronaval perdait la vie dans le crash d'un DC-4 lors d'une mission d'entraînement. Le général Yann Latil sur la base navale de Nouméa cet après-midi. Le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie a rendu visite aux 50 stagiaires qui participent à la préparation militaire marine. La rentrée universitaire se prépare. Nous en avons parlé ce midi dans notre magazine Citoyen. Émission retrouvée en podcast sur notre site internet et extrait dans ce journal. Le sport, le tennis, la suite de l'Open d'Australie. On joue les premiers quarts de finale de la compétition. Chez les dames, première surprise avec l'élimination de l'américaine Coco Gauff. Bonsoir et soyez bienvenue dans ce journal. Le 18e gouvernement est donc au travail. Hier, ses 11 membres avaient échoué à faire aboutir la répartition des secteurs. Mais ce matin, une majorité s'est dégagée pour voter la répartition de ces secteurs. Les membres du Rassemblement, des loyalistes de Calédonie Ensemble et de l'Éveil Océanien ont voté pour une répartition que vous nous détaillez, Jean-François Bodin.
Oui, d'abord le président du gouvernement, Alcid Ponga, il est chargé d'animer et de contrôler le secteur du droit civil ainsi que du suivi des questions liées au transport aérien international et à la promotion internationale de la Nouvelle-Calédonie. Il est également chargé des relations avec les collectivités, le Congrès, le CESE et des sujets en lien avec la francophonie. Et puis il est en outre chargé de la stratégie minière. Il faut rajouter à tout cela les compétences qui lui sont propres en matière de relations extérieures et de sécurité civile notamment. Christopher Gisès est le porte-parole du gouvernement. Il était aussi chargé d'animer et de contrôler les secteurs de l'économie, du commerce extérieur, de la fiscalité, du travail et de l'emploi, de l'énergie et du numérique. Il est également chargé des sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Isabelle Chamorro, elle, est chargée d'animer et de contrôler, comme dans le précédent gouvernement, les secteurs de l'enseignement et des questions relatives à l'enseignement supérieur et à l'audiovisuel. Elle est en outre chargée de la protection de l'enfance, des sujets liés à la famille et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est également chargée de la cause du bien-être animal. Thierry Santal, lui, anime et contrôle les secteurs du budget et des finances, du suivi des contrats de développement et de la fonction publique. Il est également chargé du suivi des comptes sociaux, ainsi que des questions liées au handicap et à la dépendance. Jérémy Katidjo-Monnier est lui chargé d'animer et de contrôler le secteur de la transition écologique et du changement climatique. Il est également chargé du développement durable, de la biodiversité, de la gestion et de la valorisation du parc naturel de la mer de Corail. Il est aussi chargé de la politique de l'eau et de la transition alimentaire. Pételo Sao est lui chargé des secteurs de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme. Il est également en charge du patrimoine immobilier et des moyens de la Nouvelle-Calédonie. Il est enfin chargé de l'innovation technologique et de la transformation numérique de l'administration, de la modernisation de l'action publique ainsi que de l'évaluation des politiques publiques. Côté indépendantiste, Gilbert Huénon, lui, anime et contrôle le secteur du transport terrestre et des infrastructures publiques qui y sont liées et de la prévention routière. Il est également chargé du suivi du fonds Nickel. Michael Forest anime et contrôle les secteurs de la jeunesse, des sports et de la culture. Il doit aussi suivre les questions liées à la citoyenneté. Samuel Népéon, lui, anime et contrôle les secteurs du transport aérien domestique, des questions liées aux affaires maritimes et des infrastructures maritimes et portuaires. Il est également chargé des questions liées à la recherche et à la valorisation des ressources naturelles et il est enfin chargé de la formation professionnelle. Reste encore Adolphe Digoué qui anime et contrôle le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il est aussi chargé du pilotage et du suivi du fonds d'électrification rurale. Enfin, Claude Gambin anime le contrôle de la santé et de la protection sociale, mais il doit aussi assurer le suivi du plan d'Ocamo, être épanoui, et de la politique de la solidarité. Et puis en lien avec le président du gouvernement, il est enfin chargé des affaires coutumières et des relations avec le Sénat coutumier et les conseils coutumiers.
La répartition des secteurs est donc faite. Chacun doit maintenant se mettre au travail, nous a dit ce matin le président du gouvernement, Alcide Ponga.
Il y a eu des discussions qui ont marché dans un sens et pas dans l'autre. Ce que je disais hier, c'est que on devait continuer et poursuivre et au final, on a calé les choses avec des partenaires hier pour trouver une certaine majorité et puis toujours avoir comme objectif de démarrer le plus vite possible. Ça a été calé avec deux voix supplémentaires pour qu'il y ait une majorité, mais c'est sûr que quand vous regardez la répartition des secteurs avec les collègues indépendantistes, on a laissé des secteurs importants à l'autre côté. Et c'est aussi la philosophie que je souhaite ici, c'est qu'on partage le travail, qu'on avance et que ça ne soit pas des problématiques de personne. Il faut qu'on avance.
Et d'après nos informations, si les discussions ont pris du temps, c'est en raison d'un blocage qui serait venu des membres de l'UC. Gilbert Thuyénon voulait récupérer le secteur du transport aérien international ainsi que la gestion du port et Michael Forest, la promotion du tourisme. Samuel Népéoun, membre UC du gouvernement, était déçu à la sortie de la réunion ce matin.
On est déçu. On aurait pu aboutir à ce que j'appelle une partage des responsabilités qui soit plus équilibrée. On l'a dit depuis le début, qu'on n'était pas là pour quémander, on n'était pas là pour se battre pour des répartitions de portefeuilles ou de postes, etc. Ce qui était important pour nous, c'était cet exercice-là, parce que c'est dans le cadre de la répartition des portefeuilles qu'on doit pouvoir se mettre au travail. Ce qui était important pour nous, c'est que nous soient attribués très rapidement les portefeuilles qui nous permettent d'avancer. Le pays nous attend et a besoin que le gouvernement se mette en place rapidement. Simplement, on va dire qu'on déplore que on n'aura pas réussi cet exercice. Ça aurait été l'occasion de montrer aux Calédoniens qu'on est capable de dépasser nos clivages politiques et de pouvoir travailler ensemble, surtout dans une période compliquée et avec une durée de vie d'un gouvernement qui est très court. Maintenant, ça doit être derrière nous. Maintenant, il faut se mettre au travail.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand. Et pour revenir sur la répartition des secteurs, nous recevrons le président du gouvernement demain à 7h30. Alcide Ponga sera en effet notre invité du matin. Dans l'actualité de ce mardi soir également, les syndicats mobilisés pour le chômage partiel, rassemblés devant le congrès de la Nouvelle-Calédonie une bonne partie de la journée, les principaux syndicats du territoire souhaitaient se faire entendre, notamment des élus de la commission permanente qui se réunissait cet après-midi pour examiner un projet de délibération relative au chômage partiel spécifique lié aux exactions débutées en mai 2024. Un texte qui prévoyait notamment au grand dam des syndicats, à l'abaissement du taux de rémunération horaire brut de 70 à 50%. Et côté Tony Dupré, vice-président de la COGETRA, qui s'exprimait avant la séance de la commission permanente.
Aujourd'hui, c'était l'occasion de porter ensemble, hein, les cinq syndicats salariés, notre mécontentement, hein, de par cette volonté d'aller voter la prolongation du chômage partiel en baissant, hein, l'indemnité de 70 à 50%. Et en revoyant aussi le calendrier, c'est-à-dire que du mois de juin, on tomberait au mois de mars. Aujourd'hui, on le sait, la population souffre, non seulement les salariés, mais aussi la population en général. Hein. Le pouvoir d'achat est fortement impacté à tous les niveaux, donc pour nous, c'est juste pas possible, quoi. La semaine dernière, lorsqu'il s'agissait de voter la réforme de la TGC, ils ont choisi de ne pas toucher au taux. Pourquoi ? Ils l'ont dit clairement. Il ne faut surtout pas aujourd'hui aller impacter donc le pouvoir d'achat, le quotidien des Calédoniens. Ben, qu'ils gardent la même logique, la même cohérence aujourd'hui.
Tony Dupré au micro de Léo Fichou. Ajoutons qu'avant la réunion de la commission permanente, le CESE s'était réuni en urgence pour examiner ce projet de délibération. Le CESE avait rendu un avis favorable à l'unanimité à cette proposition du Congrès, en émettant toutefois quelques recommandations. Il suggérait notamment de prolonger au plus vite le chômage partiel, au moins jusqu'au milieu de l'année 2025, pour offrir plus de visibilité aux entreprises. Il recommandait également de mettre en place des critères d'éligibilité plus stricts plutôt que de baisser l'indemnisation des salariés. Au final, les élus de la commission permanente ont finalement adopté la délibération qui était à l'ordre du jour. Texte amendé qui prévoit notamment la prolongation du dispositif chômage partiel spécifique jusqu'au 30 mars 2025, voire jusqu'au 30 juin 2025, sous réserve de disposer des financements correspondants.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour face aux difficultés financières qu'elle rencontre. Comprenez-vous la décision de la province sud de réduire ses aides aux boursiers? Si vous la comprenez, vous tapez 1. Si vous ne la comprenez pas, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, pour 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche est une bonne chose. Ils sont 21% à penser que ce n'est pas une bonne chose. Il est 17h55, on va marquer une première pause dans le journal.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Lionel Sabot.
Et alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, les étudiants se préparent. À 14 jours maintenant de la rentrée universitaire, nous recevions à la mi-journée dans notre magazine Citoyen Yannick Lérand, directrice de la Maison de l'étudiant, Yvona Chouen, qui est étudiante à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et Gaëlle Lagadec, le responsable de la vie étudiante et des études. Gaëlle Lagadec qui est revenue sur cette rentrée un peu particulière, une rentrée post-émeute sur le territoire.
On a actuellement, par rapport à la même date il y a un an, 6% de vœux confirmés d'inscription à l'université en moins. Pas mal de familles ont quand même confirmé les vœux tout en se préparant à quitter la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une sécurité pour eux et qui nous trouble un petit peu les statistiques. On s'attend donc à ce qu'on ait une baisse d'effectifs comprise entre moins 6 et moins 10%.
Finalement, c'est un phénomène inverse à ce qu'on avait connu après la crise Covid, où on avait eu plus d'inscriptions à l'UNC.
Il y a deux effets quand même, on ne pouvait pas le savoir à l'avance, mais il y a beaucoup d'étudiants qui, malgré les efforts qu'on a faits pour la continuité pédagogique, ont abandonné leurs études en cours d'année. Nos étudiants internationaux, eux, a priori, diminuent de 76%, et essentiellement les étudiants du Vanuatu.
Est-ce que ça joue sur les formations qui sont proposées à l'université? Est-ce que vous avez été obligé de réduire la voilure sur ce point de vue-là aussi?
On n'a pas réduit la voilure pour des questions d'effectifs. Maintenant, on arrive dans un rythme de croisière, donc c'est pas qu'on est en deuxième année d'une maquette qui a vocation à durer 5 ou 6 ans que l'on fait des modifications. Pourtant, on a supprimé la licence de langues étrangères appliquées anglais-japonais pour la première année. On continue la deuxième année, la troisième année, puis on va les fermer progressivement. Ça avait beaucoup moins de sens de continuer en termes de débouchés cette formation.
À la question de la situation en Nouvelle-Calédonie préoccupe encore de nombreuses familles d'étudiants, et notamment la question de financement des études, du transport, du logement. Yannick Lérand, directrice de la Maison de l'étudiant.
Il reste quelques places, mais elles sont de plus en plus réduites, puisque pas mal d'étudiants se sont réveillés tardivement. Certainement, oui, on a constaté notamment une forte augmentation des tarifs de transport. Donc l'étudiant qui a la chance d'avoir sa chambre sur le campus, d'être inscrit à l'UNC, pour celui-ci, tout va bien. Mais des étudiants peuvent être logés sur le campus, être dans un autre établissement, notamment je pense aux BTS qui sont au Lapérouse. Donc il y a le frein du prix du ticket qui a énormément augmenté. Et puis également une incertitude, peut-être, quant à l'aide au logement. La plupart des étudiants boursiers bénéficient donc d'une aide au logement qui leur permet d'avoir un loyer à prix réduit, 8 000 francs au lieu de 50 000, et ils plaignent une incertitude compte tenu de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, on espère que tout ira bien, mais c'est quand même un petit peu angoissant pour nos jeunes.
Et l'Université de la Nouvelle-Calédonie accueillera ses étudiants à partir du 4 février pour les primo-entrants et dès le 10 février pour les autres. Outre Parcoursup, les inscriptions peuvent se faire directement sur le site internet de l'Université de la Nouvelle-Calédonie ou en prenant rendez-vous au 29 02 90, le 29 02 90. Quant à notre magazine citoyen, il est à retrouver évidemment en podcast sur notre site internet rrb.nc. Le CCAS du Mont d'Or accompagne financièrement les familles pour cette rentrée 2025. 31 familles, dont 60 enfants scolarisés du primaire au lycée, vont se voir remettre cette semaine des bons pour acheter des fournitures scolaires. Une première distribution s'est déroulée ce matin dans la salle des communautés au Vallon d'Or. Les habitants ont également pu bénéficier d'un accompagnement aux démarches numériques. Une seconde distribution se déroulera ce jeudi à Boulary. Cette opération vient en complément du fonds d'aide des établissements du secondaire de la commune. Ils ont marqué l'histoire de la marine en Nouvelle-Calédonie. Il y a 43 ans, jour pour jour, 7 marins perdaient la vie au cours d'un crash d'un avion DC-4. Une cérémonie était organisée aujourd'hui à la chapelle de Bangou, à la Tamoa, près du lieu du crash, pour leur rendre hommage, Charlotte Coulson.
43 ans sont passés depuis cet accident tragique, mais l'émotion était toujours vive ce matin. Plus d'une soixantaine de personnalités sont venues se recueillir devant la stèle qui a été érigée en hommage à ces marins de l'air. Des chefs coutumiers, des membres de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, des anciens combattants qui tous gardent le souvenir vif de ce drame survenu le 21 janvier 1982. Ce jour-là, les marins se préparent à effectuer une série d'exercices à bord d'un avion DC-4. Ils commencent l'entraînement alors que la nuit est tombée. Une série de décollages et d'atterrissages depuis Tontouta. Les 9 premières rotations se déroulent parfaitement. Seulement, lors de la 10e, l'avion change de direction et passe côté montagne pour une raison qui reste toujours inconnue. À 21h04, le DC-4 percute le mont Kokatea au-dessus de la tribu de Bangou à Latamoa. Tous ses passagers périssent. Un événement qui marque les esprits, notamment celui de Christian Futoli. Il est aujourd'hui vice-président de l'Association des marins et marins anciens combattants de Nouvelle-Calédonie, l'AMAC, et a animé la cérémonie d'hommage ce matin.
Tous les ans, on célèbre l'anniversaire de ces crashs, hein, en compagnie de la tribu, des chefs coutumiers et tout ça, et de toutes les autorités administratives et militaires du coin. On leur rapporte quelque chose de devoir de mémoire. C'est très important, surtout pour la jeunesse. Dans cet équipage, il y avait 7 membres au lieu de 8, parce que bon, comme c'était un vol d'entraînement, et tout l'équipage n'est pas rentré. Malheureusement, dans cet équipage-là, il y avait 3 gars de ma promotion. Hein, donc c'est... Pour moi, ça me fait quand même quelque chose.
Et l'appareil qui transportait les marins était un avion de l'escadrille 9S qui avait été offert par le président américain Harry Truman en 1945. Il avait servi un temps pour évasaner des blessés ou même transporter des personnalités, la plus célèbre étant le général de Gaulle en 1956 et en 1966.
Cet après-midi, les 50 stagiaires qui participent à la préparation militaire marine 2025 ont eu droit à une visite de taille, celle du général de brigade Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Ils ont entre 16 et 21 ans, viennent de Nouméa, de Wailou, de Dumbéa ou encore des îles Loyauté et sont tous volontaires. Pendant un mois, les 50 jeunes Calédoniens, dont 2 du SNU, Service National Universitaire, apprennent les rudiments du métier de marin et de militaire. Le général Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, était effectivement aujourd'hui présent sur la base navale de Nouméa. Ah, il a pris le temps d'échanger avec eux.
Ouais, effectivement, je suis venu voir quelles sont leurs motivations, pourquoi ils ont choisi de nous rejoindre pour quelques semaines au sein de la Marine nationale, dans le cadre d'une préparation militaire marine. Ils sont très motivés. Et puis, si tout se passe bien, nous accompagner sur la durée, soit pour un contrat de réserve, soit pour un contrat d'actif, soit même comme amis des forces armées, amis de la marine. La finalité n'est pas forcément de faire du recrutement dans la réserve ou dans l'active. Évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais c'est surtout de parler de nous, de se faire mieux connaître, et puis d'affermir quelques vocations ou de lever quelques doutes pour certains d'entre eux.
Demain, les 50 volontaires, dont 2 du Service National Universel, seront au camp de Nandaï, 3 jours de bivouac avec une partie très attendue, le tir en conditions réelles. Mais avant ça, ils ont appris à marcher au pas, ils ont pu tester leurs connaissances maritimes et préparer l'examen du permis côtier ou encore s'essayer au montage et au démontage des armes. Cyril, 16 ans, et Sharon, 18 ans, font partie des volontaires.
Bon, en fait, moi je suis venu parce qu'il y avait un esprit de discipline, un esprit de corps aussi. Et le fait d'être un peu côte à côte avec ses camarades, de trouver une autre cohésion, on va dire, surtout aussi quand on veut chercher une carrière militaire, ça peut m'aider aussi. Donc je suis venu, je me suis inscrit et puis j'ai été pris. Du coup, je suis pas mal content quand même d'être là.
Cette formation me permet de découvrir les autres métiers dans la marine et aussi ce diplôme, le brevet de la marine me permet aussi de rentrer facilement dans le métier marin-pompier.
La préparation militaire marine 2025 a débuté le 6 janvier dernier et se clôturera le 6 février par une cérémonie à la base navale de Nouméa.
C'est une lutte sans fin depuis son apparition sur le territoire en 2019. Le scarabée rhinocéros ou rhinocéros du cocotier envahit chaque année de plus en plus de communes charlatanes.
Et c'est pourquoi le gouvernement, au travers de la DAVAR, met en place des campagnes de sensibilisation. De nombreuses régions du Pacifique sont également touchées par cet insecte qui s'attaque, comme son nom l'indique, aux cocotiers et aux palmiers. En Calédonie, 4 communes sont considérées comme infestées, La Foy, Bouloparis, Païta et Dumbéa, et 7 autres sont dites impactés, c'est-à-dire des zones où les scarabées ont déjà été repérés. Les communes concernées sont Nouméa, Le Mont d'Or, Saramea, Farino, Moindou, Canala et Pointe-Boute. Et l'objectif principal est donc d'empêcher cet envahisseur de rejoindre les îles Loyauté, qui sont à l'heure actuelle encore épargnées. Pour cela, des mesures sont mises en place, explique Aurélie Chan, la responsable de la section protection des végétaux au CIVAP de la DAVAR.
Il y a des contrôles qui sont faits au départ des îles. Tout n'est pas autorisé pour les îles. Tout ce qui est cocotiers, palmiers, compost est interdit vers les îles. Les plantes au départ des avions sont interdites. Et ensuite, pour tout ce qui est plantes bateaux, il y a une inspection obligatoire par le CIVAP au niveau des îles. Et ensuite, on a déployé du piégeage au niveau des différents sites, au niveau de l'aéroport à Magenta, pour protéger toute contamination de l'orectès au niveau des avions qui pourraient du coup se retrouver dans les îles. Et au niveau des zones portuaires aux alentours de Nouméa.
Et en 2024, sur les 176 pièges établis, plus de 1700 rhinocéros du cocotier ont été interceptés. Pour limiter sa propagation, les Calédoniens peuvent adopter des gestes simples lorsqu'ils sont dans des zones infectées.
Les méthodes de gestion, c'est déjà pas accumuler de déchets verts ou alors les retourner régulièrement. Et si on trouve des larves, et ben les écraser le plus possible parce que c'est le seul moyen de lutte réel, c'est d'agir contre les larves. Ensuite, surveiller ces cocotiers et palmiers, ce qui nous permettra de dire si on est en présence d'orectès ou pas. Et le dernier point, c'est ne pas déplacer de plantes ou de végétaux ou de compost ou de déchets verts d'une zone connue pour être impactée ou contaminée vers une zone indemne.
Et si vous voyez des signes d'infestation, notamment dans le nord ou sur les îles, contactez le CIVAP au 73 32 66 ou envoyez un mail à l'adresse davar.civap-pv@gouv.nc.
Il est 18h07, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous à suivre le sport et la météo.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Ouais, le sport, on va parler tennis avec 4 matchs au programme ce mardi à l'Open d'Australie. On parle bien évidemment des quarts de finale chez les messieurs et chez les dames, Léo.
Et honneur aux dames avec cette surprise à la mi-journée, la numéro 3 mondiale, Coco Gauff, l'américaine qui s'est inclinée en 2-7, très serré, 7-5, 6-4 contre l'espagnole Paola Badosa. En demi-finale, la tête de série numéro 11 du tournoi sera opposée soit à la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, soit à Anastasia Pavlyuchenkova, les deux femmes qui s'affrontent dès 19h pour une place donc dans le dernier carré. Chez les hommes, Alexander Zverev, tombeur d'Hugo Humbert en 8e, joué contre l'américain Tommy Paul cet après-midi et l'allemand s'est imposé en 4-7, le score 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. En demi-finale, il affrontera le vainqueur du duel prévu ce soir entre deux champions de deux générations différentes. D'un côté, Novak Djokovic, maître des lieux, vainqueur à 10 reprises de l'Open d'Australie. De l'autre, Carlos Alcaraz, surmotivé et plus ambitieux que jamais. C'est le seul grand chelem qui manque à son palmarès. Début de la rencontre entre les deux hommes aux alentours de 20h30, 21h.
Et on reste en Australie avec cette fois-ci du cyclisme et la première étape du Tour Down Under. Première étape remportée au sprint par l'Australien Sam Welsford, qui en a profité évidemment pour prendre la tête du classement général. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Disputée sous un ciel immaculément bleu et une température moyenne de 30 degrés, cette première étape, qui était longue de 151 km, s'est courue dans une des régions vallonnées les plus pittoresques d'Australie méridionale. Partie très tôt, Zacharia Mariedge et Fergus Browning de l'équipe d'Australie ont compté jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton qui a fini par les rejoindre à 23 km de l'arrivée. Celle-ci a été remportée au sprint par l'Australien Sam Welsford de l'équipe Red Bull Bora devant le Britannique Matthew Brennan de l'équipe Visma et son compatriote Matthew Walsh de l'équipe Groupama. Sans surprise, Sam Welsford endosse aussi le maillot de leader du classement général. à Sydney. Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, un mot de handball à présent et Suzanne Wajoka qui quittera Besançon à la fin de la saison, Léo.
Et c'est son club dans l'Est de la France, dans le Doubs, qui a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. Je cite, Suzanne Wajoka ne portera plus les couleurs de l'ESBF la saison prochaine. La Calédonienne qui s'était imposée comme une joueuse explosive dans le collectif a connu une ascension fulgurante à son poste. Malgré la très grande volonté de vouloir conserver Suzanne dans nos rangs pour les saisons à venir, celle-ci a préféré décliner la proposition du club pour découvrir de nouveaux horizons. Fin de citation. Une décision qui n'a pas été facile à prendre pour l'ailière récemment appelée pour la première fois en équipe de France. Suzanne Wajoka n'a pour le moment pas dévoilé son futur club.
Et puis du karaté avec des Calédoniens qui étaient engagés ces derniers jours à l'Open de Marseille.
Une belle compétition durant laquelle les 8 Calédoniens engagés ont pu se confronter aux meilleurs combattants français, européens et africains. Un niveau très relevé avec près de 800 compétiteurs. On retiendra la médaille de bronze de Tommy Barrault dans la catégorie des moins de 55 kilos juniors, mais aussi la défaite de Célia Farr chez les moins de 66 kilos, là aussi, lors de la petite finale.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, aux loyautés, dans une moindre mesure sur l'ouest, des nuages bas circuleront et pourront donner quelques ondées. Ailleurs, le temps sera sec sous un ciel parfois voilé. Sur l'est, à l'abri de la chaîne et sur l'ouest, le vent deviendra variable faible. Aux loyautés et près des pointes nord et sud, le vent soufflera entre 5 et 10 nœuds de sud à ouest. Les températures minimales seront en baisse dans l'intérieur sur l'ouest jusqu'à 20 degrés. Ailleurs, elles seront comprises entre 22 et 25 degrés. Demain matin, aux loyautés, quelques gouttes seront possibles en début de journée. Ailleurs, le temps sera ensoleillé malgré quelques nuages d'altitude. Sur l'est et l'ouest, le vent sera variable faible. Ailleurs, il s'établira sud-ouest à sud-est entre 5 et 10 nœuds, Lionel.